Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique les amis, on est le lundi 2 décembre, qui dit lundi dit donc premier jour de la semaine, et une nouvelle semaine de C'est Ludique avec de nombreux jeux. On approche de Noël et forcément il y a encore quelques petites pépites qui arrivent, et aujourd'hui je vous en parlais d'une, un jeu pour deux joueurs, voire même un jeu solo. C'est Ludique, ça commence tout de suite, et puis bien sûr on retrouvera Morgane pour soirée jeu d'ici quelques minutes.
C'est la pause déjeuner, Matt pour t'inviter à jouer. C'est ludique, encore plus de nouveautés.
Et au menu aujourd'hui, donc c'est Dungeon Exit de Karen Nguyen et David Carmona, illustré par Jules Dubost. Un jeu de pose de polyomino et de logique pour un ou deux joueurs à partir de 8 ans, édité par Unfriendly Games et distribué par BlackRock. Alors pour l'emporter, il faudra trouver la sortie du donjon. Au total, vous aurez 130 défis. Au niveau du matériel, vous avez deux plateaux Recto Verso qui sont aimanté, un ensemble de polyomino vert et un ensemble bleu, avec des polyomino un par un, avec une porte, une clé, un coffre, un dragon et un panneau de sortie. Vous avez également 4 ponts, 2 escaliers et 12 fossés. Chaque joueur aura un plateau avec 144 cases, de A à L en ligne et de 1 à 12 en colonne. Vous récupérez vos tuiles polyomino et vous pouvez commencer la partie. Mais alors, comment on joue ? On joue en même temps dans le mode deux joueurs. Il faut être même rapide, très rapide, car c'est le premier à sortir du donjon qui l'emporte. Alors chaque joueur va placer les tuiles symboles et suivre les coordonnées en fonction du défi choisi. Donc il y a plusieurs défis. La tuile porte par exemple en C3, puis vous posez la clé en E5, le coffre en K12, le dragon en I7 et le panneau sorti en L1. À partir de maintenant, vous allez devoir relier dans l'ordre, grâce au polyomino, la porte à la clé au coffre, le coffre au dragon et le dragon à la sortie. Mais attention, vous ne pouvez pas poser les polyomino comme bon vous semble, il y a des contraintes, en plus de respecter l'ordre de passage. Pour connecter la tuile, cela doit toucher qu'une seule extrémité du polyomino. Il faut vraiment faire un seul chemin avec vos tuiles polyomino. Alors au début, les premiers défis peuvent paraître faciles, mais au fur et à mesure que les défis avancent, ça devient plus compliqué. Car on vous indiquera un nombre de tuiles à utiliser. Par exemple, pour rejoindre la sortie, vous ne pourrez utiliser que 8 tuiles. Puis, vous rajouterez des fossés sur votre plateau. Alors bien sûr, aucun chemin ne peut passer dessus. Mais vous pourrez compter aussi sur les ponts pour traverser une case. Il existe aussi un défi coopératif où vous allez retourner le plateau côté nuit. Chaque joueur aura un plateau différent au niveau des coordonnées alphabétiques. Un aura de A à L et l'autre de M à X. Il y a aussi un mode solo étage supérieur. Vous disposerez un des plateaux dans la boîte pour faire l'étage. En utilisant l'escalier, en le touchant d'un seul côté, vous pourrez donc monter. Alors ce que j'en pense de Dungeon Exit, que ça soit en solo ou à deux, compétitif ou coopératif, c'est top. J'aime beaucoup ce côté défi logique pour créer son chemin. Après l'excellent Nekojima, les auteurs nous reviennent avec une nouvelle pépite ludique, avec d'ailleurs une grande rejouabilité, 130 défis. Alors si vous aimez les jeux comme Smart Games et autres casse-tête, ce jeu est certainement fait pour vous. En plus, l'édition avec ce principe de tuiles aimantées est parfaite. Ça s'appelle Dungeon Exit et ça sort cette semaine chez tous vos ludicaires. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Morgane du Carnet des Geekeries pour Soirée Jeu Feu.
C'est la pause déjeuner. C'est ludique, les soirées jeux, c'est magique.
Mais bien sûr, les soirées jeux, c'est magique. Et comme chaque semaine, on retrouve Morgane du Carnet des Geekeries. Salut Morgane.
Salut.
Alors Morgane, tu as encore beaucoup joué, je suppose, ce week-end.
Ouais, j'ai encore un peu joué. Du coup, j'ai préparé 3 jeux pour vous en parler aujourd'hui. On commence avec Slide Quest. C'est un jeu de Nicolas Bourgoin et Jean-François Rochas qui est illustré par Stéphane Escapa. C'est sorti en 2019 chez Blue Orange. On est sur un jeu qui fera appel à votre dextérité parce qu'on est sur un jeu coopératif en 3D où en fait, on va devoir faire en sorte d'aider un chevalier à sauver le royaume en parcourant différentes aventures. En fait, on a un plateau qui est posé dans la boîte de jeu et on a 4 leviers, donc il y en a un sur chaque côté de la boîte. Ces leviers, en fait, ils vont nous permettre de faire glisser le chevalier à travers les différentes cartes posées sur le plateau. Mais comme ça peut pas être aussi simple, notre brave chevalier, il va croiser des pièges et des obstacles sur son chemin. Et bien évidemment, il va falloir arriver à le faire, faire en sorte de les éviter pour qu'il atteigne son but final.
C'est pas évident du tout, hein.
Non, c'est vachement, c'est hyper compliqué au départ en tout cas. On a 20 cartes à réaliser du coup, et en fait en début de partie, on va choisir un niveau de difficulté plus ou moins élevé qui va nous donner plus ou moins de cœur, de vie pour la partie. Donc forcément, pour l'emporter, il faudra faire en sorte d'amener ce chevalier au bout des 20 cartes pour qu'il aille sauver son royaume sans avoir perdu sa dernière vie. Et pour ça, en fait, chaque joueur va contrôler un ou plusieurs leviers. Pardon, en fonction du nombre de joueurs, combien on va jouer, on aura un ou deux leviers à contrôler. Et ces leviers, en fait, ils vont incliner la carte sur le plateau et permettre au chevalier de glisser pour tenter de suivre un chemin qui apparaît en jaune, qui est lumineux, sur le plateau. Il faudra rester prudent parce que on va avoir des trous, on va avoir des dynamites, des barrières, on va avoir des méchants. Et en fait, dès qu'on arrive au bout de la carte, on change de carte pour repartir sur un nouveau trajet. C'est un jeu que j'ai trouvé hyper bien conçu, alors autant par le matériel que par la mécanique, parce qu'en fait là, la coopération elle est vraiment indispensable pour faire traverser le chevalier. T'as les joueurs qui vont devoir se coordonner pour passer parfois certaines étapes qui sont tout juste, quoi. Enfin, le passage, c'est ça. Qui ne va pas être compliqué, qui ne va pas être facile à faire. On va devoir aussi beaucoup communiquer pour être sur la même longueur d'onde, savoir qui appuie quand.
On crie beaucoup aussi.
Ouais, tu cries, voilà, pas mal aussi.
Fais pas comme ça.
Ralentis, n'y va pas, là. Et en fait, t'as une sensation de jeu vidéo quand tu joues, parce que tu dois passer des différents niveaux pour arriver au boss final. Sauf que là, t'es sur un plateau 3D en réel. Donc, comme tu disais, au début, c'est hyper compliqué. Parce qu'il va falloir jauger, en fait, notre puissance pour appuyer correctement sur le levier. On va refaire plusieurs fois les premiers niveaux. Moi, je sais que la première partie que j'ai fait, on a fait deux ou trois fois les deux premiers niveaux parce qu'on n'arrivait pas à jauger correctement. Après, la difficulté, elle augmente petit à petit. Donc, t'as les pièges qui sont de plus en plus présents. T'as la concentration qui va être encore plus puissante qu'au début. Et avec la dextérité, qu'il va vraiment falloir que tu arrives à doser.
C'est ça.
Et t'as un côté intuitif parce que tu découvres le matériel. Tu sais tout de suite ce que tu vas devoir faire. Tu vois le truc, tu vois le petit chevalier, tu dis oui, ok, il doit aller de l'autre côté. Mais c'est le genre de jeu que tu joues en famille avec des plus jeunes. C'est ludique. T'as vraiment un matériel de qualité. Et ça donne envie d'être joué. En fait, moi, le côté coopératif, j'ai adoré dans ce jeu.
Ça marche très, très bien.
C'est ça. On continue du coup avec Gorento. Donc là, on passe de la dextérité à la réflexion du coup.
Oui.
Gorento, c'est un jeu de Yana Richard qui est illustré par Josh Capel, sorti chez Super Meeple en 2021. On est sur du jeu abstrait dans lequel on va construire un Gorento, donc c'est un sanctuaire japonais, pour trouver le chemin idéal vers l'harmonie. Donc dans ces Gorento, on retrouve les cinq éléments. On a la terre, l'eau, le feu, l'air et le vide. Et en fait, on a un plateau central qui représente une montagne et autour, on a un chemin avec différentes tuiles. Et en fait, à chaque tour, le joueur va choisir un élément qui est placé sur le chemin pour le placer sur la même ligne dans la montagne. Et en fonction de la couleur choisie et de l'emplacement, il va aller récupérer des tuiles qu'il pourra placer sur son plateau personnel.
Ouais.
Donc chaque tuile de couleur a son effet bien à elle. Donc si vous déplacez une tuile haut, vous allez pouvoir prendre uniquement vos tuiles dans la même ligne que là où vous l'avez placée. Si c'est de la terre, vous irez les récupérer en dessous de celle que vous venez de placer. L'air, ce sera sur les côtés, orthogonalement. Le feu, c'est dans la même colonne. Et le vide, ça sera dans les coins en diagonale. Donc, c'est toujours par rapport à celle qu'on vient de placer.
Ouais, chaque élément a son effet.
Ouais, voilà, chaque élément a vraiment son effet. Et puis, c'est bien indiqué, en plus, sur le côté du plateau. Et en fait, pour savoir le nombre de tuiles qu'on aura le droit de récupérer, c'est tout simple, parce qu'on va se baser sur notre plateau personnel. On regardera le nombre de tuiles de la couleur qu'on possède déjà par rapport à celle qu'on veut déplacer. Et on va pouvoir récupérer une tuile de plus que ce nombre-là qu'on possède. Donc, par exemple, si on décide de déplacer une tuile d'eau sur la montagne et qu'on en a deux sur notre plateau personnel, on va pouvoir, en plaçant cette tuile sur la montagne, récupérer trois tuiles dans la même ligne. Donc, sachant qu'au maximum, on peut en récupérer que 4 de tuiles dans tous les cas. Donc, même si on a la capacité d'en prendre plus, on se limite à 4.
Ouais.
Ces tuiles récupérées, on va les placer sur notre plateau personnel. Et donc, petit à petit, on va avoir nos éléments qui vont augmenter. Et là où ça va être utile, c'est qu'à chaque manche, on a deux objectifs à réaliser. Donc, qui vont nous permettre de marquer pas mal de points. Donc, par exemple, on peut marquer des points pour toutes les piles qui font une taille différente, pour celles qui ont un nombre de tuiles paires. Il y en a pas mal des différents et c'est clair que ça va carrément orienter en fait notre choix au niveau des tuiles qu'on va placer pour récupérer celles qui nous permettent de marquer le plus de points. Comme ces objectifs, ils restent les mêmes pour toute la partie, on va faire en sorte de les faire évoluer petit à petit. Donc on joue 4 manches, et en fait à la fin de la partie, on a aussi des points pour deux types de tuiles qui sont précises en début de partie aussi, et qui vont scorer 2 points chacune. On a aussi des variantes, on a une variante à 2 joueurs que j'aime beaucoup, parce qu'elle impose une tuile du chemin à retirer entre chaque tour. On a la possibilité aussi de placer les tuiles de la montagne différemment, il y a aussi un mode solo, un mode en équipe. Et en fait, avec Gorinto, t'es un peu dans la même lignée qu'un Azul.
Ouais.
Quand il joue, notamment en termes de réflexion, parce qu'on a une mécanique qui est très simple d'accès, mais les choix, bah, ils seront jamais évidents, parce que bah, toi, t'as envie d'augmenter tes piles de tuiles, mais bah, tu restes toujours prudent avec les objectifs, parce qu'une tuile récupérée, elle peut te ruiner ton objectif d'un coup. L'avantage, c'est comme on connaît les objectifs dès le départ, on sait qu'ils changeront pas, donc ça oriente quand même bien notre jeu. Après, ça reste calculatoire, hein, même si on reste sur quelque chose de très zen avec ce thème. T'as le plateau aussi qui évolue petit à petit, avec des cases bah, qui vont se vider aussi et qui vont nous bloquer nos choix parce qu'on va récupérer moins de tuiles que ce qu'on pourrait normalement prendre. On est vraiment sur un jeu de collection, de placement de tuiles. Moi, j'y retourne toujours avec plaisir parce qu'en fait, la mécanique de déplacement des tuiles, je la trouve hyper originale.
Ouais, ça marche bien, ça marche bien.
Ça marche très très bien.
Ensuite...
Et bah, dernier jeu, ça va être du 50 missions. Donc, on retourne sur du jeu coopératif avec un jeu de Ken Gruhl qui est édité chez Oya en 2020. Et rien qu'avec le titre du jeu, normalement, vous avez compris.
Ben, on va faire 50 missions.
Alors, voilà.
Je connais ce jeu, mais j'y ai jamais joué.
Tu as jamais joué? Non, il est hyper addictif, par contre.
Ah ouais?
Moi, je sais que ça fait des années que j'y joue bah, depuis la sortie et j'ai toujours le même plaisir à y retourner et à vouloir faire mieux, en fait. Quoi.
D'accord, ok.
Donc du coup, voilà, on a 50 missions à réaliser, c'est un jeu de cartes. Et en fait, au centre de la table, on va avoir 4 missions visibles qu'on devra réaliser à l'aide de nos cartes à nous, qui ont des valeurs entre 1 et 7 en différentes couleurs. T'en auras également 4 qui seront placées juste en dessous des missions. Et en fait, pour réaliser les missions, il va falloir que la condition demandée dessus, elle soit réalisée par la combinaison des 4 cartes, qui sont les 4 cartes chiffrées, qui sont placés juste en dessous.
D'accord.
Donc, à chaque tour, bah, tu vas devoir placer une carte de ta main sur une des 4 cartes déjà posées en la recouvrant et surtout bah, en respectant une contrainte de pose parce qu'il faudra que la carte que tu poses, elle ait soit sa valeur, soit sa couleur identique à celle
ah,
que
oui.
tu recouvres.
Ok.
Et bah, petit à petit, les missions elles vont se réaliser. Donc, on ira remplacer celle qu'on vient de réaliser par une nouvelle. On peut pas réellement communiquer. On peut juste un peu orienter les autres en leur disant « Joue pas là parce que moi, je peux assurer le coup. Voilà, je peux réaliser une mission en y jouant.
Ouais. »
Et enfin, en essayant de réaliser une des 4 missions du coup qui est en cours parce qu'on a vraiment les 4 missions à chaque fois à faire petit à petit. Mais du coup, tu en as 4 possibles. Et parmi les missions, par exemple, tu peux avoir n'avoir que des cartes paires visibles, avoir autant de cartes bleues que de rouges, avoir exactement 2 cartes jaunes espacées d'une autre carte. Tu dois avoir un total d'une valeur de 20, par exemple. Donc, en fait, tu as vraiment 50 missions qui sont complètement différentes, qui sont loin d'être faciles à réaliser.
D'accord.
Donc, au bout de 19 cartes missions réalisées, tu as la médaille de bronze, 4 cartes après, tu as l'argent et 4 cartes après, tu as l'or. Sachant que bah, pour réellement gagner le jeu, bah, il faut réaliser les 50
missions.
Les 50 missions. Et en fait, honnêtement, enfin, moi, je suis jamais arrivée aux 50 missions.
D'accord.
Je crois que j'ai dû aller au maximum à 39 ou 40 parce que dès que la pioche, elle est vide, t'as perdu.
Ah oui.
Et si tu peux pas réaliser les missions restantes, c'est perdu parce qu'en fait, on refait pas la pioche en cours de partie. Donc, t'as la pioche de cartes chiffrées, tu sais que t'as ça pour réaliser tes 50 missions. Et du coup, c'est vraiment addictif parce que quand t'échoues, bah, t'as envie d'y retourner tout de suite, t'as envie de faire mieux. Donc forcément, c'est un peu beaucoup lié au hasard de la pioche hein, parce qu'on peut se retrouver parfois avec des missions complètement opposées aux cartes qui sont placées et qu'il va falloir faire en sorte de réaliser quand même. Nous, ça nous est arrivé samedi, on avait une distribution de cartes sans vert, donc il n'y avait aucune carte chiffrée verte.
D'accord.
Et on avait des missions qui nous demandaient quasiment que du vert.
Ah oui.
Donc voilà, donc là dans l'idée, bah, c'est cool parce que tu sais que tu vas pouvoir en réaliser peut-être plusieurs d'un coup, mais tu sais aussi que tu vas devoir tout modifier pour arriver à faire tes missions. Il y a une autre petite contrainte, c'est que si bah, un joueur ne peut plus du tout jouer en posant une carte, bah, la partie elle est directement perdue. Il n'y a pas de « je passe mon tour » ou « je repioche une carte ». Là, c'est vraiment « c'est perdu direct ». Donc, quand tu as une main qui a une seule couleur, tu n'as plus qu'à espérer d'avoir la bonne valeur pour vider un peu ta main, même si elle ne fait pas de mission. Et ils ont créé une autre version aussi, une version bleue. 50 missions, ça se complique. Donc, avec 50 nouvelles missions qui sont encore plus compliquées.
D'accord.
On a aussi une carte de valeur 1 dorée qui peut te permettre de désigner un prochain joueur. Donc, ça, c'est assez utile parce que si tu vois qu'un joueur peut réaliser une mission, bah, autant lui donner directement la main. Ça rajoute aussi des missions à embûche qui te font des contraintes, qui t'empêchent de poser sur certaines piles. T'as des cartes missions gadgets aussi qui peuvent bah, te permettre de pas respecter les règles. Donc, ça, voilà, faut le savoir.
C'est plutôt pas mal, ça, de pas respecter
voilà,
les règles.
C'est pas mal, ouais. Surtout dans celui-là. Dans ce jeu, je t'avoue que des fois, t'as envie de dire non, mais on peut essayer de gruger un peu, ça marche. Et en fait, c'est aussi possible de combiner les deux boîtes entre elles pour avoir plus de challenge. Mais c'est vrai que ce jeu, c'est un petit bonbon pour moi. En fait, j'ai toujours envie d'y jouer. Enfin, c'est vrai que quand il est proposé, j'y vais toujours avec plaisir. Un jour, je me dis que j'arriverai à faire les 50 missions. Pour l'instant, c'est pas le cas.
Mm-hmm.
Mais voilà, c'est vraiment hyper addictif. Un jour, il faut vraiment que tu y joues parce que t'as envie d'y retourner. Tu le sors en 10-15 minutes et c'est hyper addictif.
Top. Eh ben, dis donc... Alors celui-là, je le connaissais de nom, mais je n'y avais jamais joué. Ça a l'air d'être plutôt sympa.
Ouais, puis, tu joues vraiment en famille et tout. Enfin, c'est hyper agréable.
Les deux autres, je connaissais. Eh ben, merci beaucoup, Morgane. Juste comme ça, avant, là, il y a le calendrier de l'Avent qui a commencé.
Oui.
Alors, comment ça se passe? Explique-nous tout.
Alors, du coup, sur tout le mois de décembre, enfin, jusqu'au 25 décembre, chaque jour, je fais gagner trois jeux, trois lots différents sur chacun des réseaux. Donc, j'ai une trentaine de partenaires d'éditeurs qui m'ont suivi une nouvelle fois cette année. Et du coup, faut pas hésiter à aller tenter votre chance. Il y a plein de jeux à gagner, sachant que les dernières cases sont les grosses cases de la haute, avec plein de jeux d'un coup à gagner.
Wow.
Mais voilà, là où je suis contente, c'est que c'est beaucoup de jeux différents. Il y en a pour tous les goûts.
D'accord.
Et du coup, c'est toujours un plaisir de le faire, ce calendrier de l'Avent.
Donc, le calendrier de l'Avent, donc à retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur X.
Et sur X, ouais, il y en a moins sur X, mais c'est beaucoup sur Facebook, Instagram.
D'accord, très bien. Et merci beaucoup, Morgane, et on se retrouve la semaine prochaine.
Ça marche, bonne semaine.
Salut.
Salut.